Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission Bana Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF et diffusé sur les antennes de Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Le quartier Pakajuma à Kingabwa dans la commune de Limete, un bidonville de la banlieue, a une image ternie de la ville de Kinshasa défiant les bonnes mœurs. Pakajuma est surtout connu pour le commerce de sexe qui l'a rendu tristement célèbre, même auprès de grandes stars de la musique congolaise. La prostitution, la plus grande spécialité de ce coin très renommé, commence dès l'adolescence et se fait à ciel ouvert. Pourtant, l'exploitation des enfants dans le contexte de la prostitution est une violation des droits des enfants et de leur dignité. La prostitution juvénile à Pakajuma et les efforts des ONG pour y mettre fin à travers de projets de réinsertion sociale seront au centre de cette émission Bana Okapi, mise en onde par Didoni Nyangas. Je suis Sarah Sumbela à la présentation. Oh, oh, oh. Depuis des décennies, Pakajuma, situé dans la commune de Limete, est resté une enclave où certains Kinois n'osent pas fréquenter à la suite de la mauvaise réputation du quartier. Prostitution, délinquance, viol, vol, violence physique, disputes, on se croirait dans un autre monde hors de la capitale Kinshasa. Plus grave encore, la prostitution des mineurs se fait au vu et au su de tous. Reportage de Gisèle Cage, John Chisupa et Miradi Fuengi.
Dans les ruelles exiguës qui séparent des centaines de maisonnettes et baraquements collés les uns aux autres, les travailleuses du sexe quadrille Pakajuma, un bidonville populaire qui accueille de nombreuses personnes vulnérables. La population assez compacte vit dans une promiscuité extrême. Elle est estimée à 5000 familles selon les statistiques des ONG. C'est ici qu'elles effectuent leur travail, au milieu de taudis en tôle, servant d'habitation pour les occupants, côtoyant des tas d'immondices qui jonchent les ruelles, respirant une odeur pestilentielle que dégage des déchets qui s'accumulent à certains endroits. Ici, pas de latrine. Urine et matière fécale sont jetées dans les caniveaux à quelques mètres des lieux d'habitation. Le commerce de sexe est l'activité principale de survie de nombreuses femmes qui vivent à Pakajuma, la plupart ayant fui la pauvreté, notamment dans la province de l'Équateur, pour une vie meilleure à Kinshasa, a fini par s'y prostituer pour survivre. Un constat glaçant, des jeunes filles, tout comme des adolescentes, pratiquent ces vieux métiers du monde. Certaines, âgées de 14, 15 ans, sont déjà mamans. L'une des filles, que nous surnommons Alphonsine, pour des raisons de confidentialité, est dans ce métier depuis l'âge de 12 ans.
Vous voulez connaître mon travail? Je fais le commerce de sexe. C'était mon choix. Mais si tu rencontres mes parents, tu ne croiras pas que c'est eux mes parents. Ça fait longtemps que je pratique ce métier. Je l'ai commencé à l'âge de 12 ans, après avoir fui de chez nous. Je suis d'abord allé à Funa, puis Kingabwa. Après, j'ai été à Tiangou avant de m'installer ici à Kaweli. Aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai eu deux enfants, mais ils sont décédés. J'aime ce métier car ma mère est en Angola. J'habitais chez mon oncle, mais il ne s'occupait pas bien de nous. Il est très attaché à ses enfants. Il n'y a que mon grand frère qui est resté chez lui. J'ai aussi fréquenté quelques centres d'encadrement où j'ai pu étudier jusqu'en première année secondaire.
Le commerce du sexe à paquet d'humain est à moindre frais. C'est ce qui attire de nombreux clients. Mais ce métier n'est pas sans risque.
Tu peux croiser un homme, il va avec toi et il te frappe au lieu de te payer. La nuit, si tu croises des militaires, ils te ravissent tout l'argent. Si tu croises de nombreux voyous, ils te violent. Il ne te donne rien. Il y a beaucoup de conséquences dans ce métier. Néanmoins, un autre client peut payer 20 000 francs, un autre 10 000 francs, et il y a ceux qui donnent 5 000, 4 000 francs. Avec la conjoncture actuelle, nous acceptons même 3 000 francs. Toute une nuit, nous exigeons 30 000, 45 000, jusqu'à 50 000 francs congolais.
Papier caro, 43 000.
Les raisons de la prostitution à paquet d'humains sont plus souvent économiques. De nombreuses femmes fuient l'intérieur de la RDC pour se prostituer à paquet d'humains. Tant que le social des Congolais ne sera pas amélioré, il sera difficile de mettre fin à la prostitution, notamment des enfants. C'est ce que pense un habitant de ce bidonville. Il est agent de la société commerciale de transport et de port, ancienne Onatra. Il vit à paquet d'humains parce que le loyer y est très abordable.
Comment papa, ah on a kawele lo lenge nini bana bazali ko bika vie za ndenge nini.
Mon nom est Emmanuel. C'est à la suite des mauvaises conditions sociales que ces personnes se livrent à cette activité. Les gens viennent ici car le loyer est moins cher, entre 20 000 et 30 000 francs. Si une femme se trouve sans mari, elle se lance dans la prostitution pour survivre. Nous voyons également les adolescentes âgées de 11, 12 ou 13 ans qui se prostituent. C'est par manque d'encadrement. Si ces enfants étaient encadrés, elles n'allaient pas faire ce métier. Elles sont nombreuses ici. Certaines vivent avec leurs parents alors que d'autres ont fui leur famille. Si la vie sociale s'améliore, les enfants peuvent prendre leur thé le matin, on n'assistera plus à ça. Il y a certaines femmes qui envoient leurs filles se prostituer. Si l'enfant tombe sur quelqu'un qui peut lui donner 1000 francs, elle cède. Moi je travaille, mais on attend 3 mois pour être payé. J'avais mes enfants ici, j'ai dû les renvoyer à Bandundu.
Paquet d'humains, c'est aussi un bastion des viols ainsi que de violences basées sur le genre. Le taux de violences basées sur le genre et de violences sexuelles plus élevé en croire l'ASBL Paquet d'humains Foundation, la police de la protection de l'enfant et lutte contre les violences basées sur le genre ne dispose pas de moyens conséquents pour mieux mener sa mission. Toutefois, l'ASBL Paquet d'humains Foundation a mis en place quelques projets en faveur des occupants des paquets d'humains. 135 femmes ont appris à lire et à écrire. 77 femmes professionnelles de sexe, chefs de ménage, ont abandonné leur ancienne activité. 43 se sont lancées dans les activités génératrices de revenus en dehors du sexe. Sur 6 000 enfants des paquets d'humains, 660, soit 11%, fréquentent l'école grâce à l'ASBL Paquet d'humains Foundation.
Après ce reportage glaçant de Gisèle Cage, John Chisopa et Miradi Fouengue, je nous propose de souffler un peu en musique. Okapi, Okapi, Okapi. Face à la prostitution juvénile, la police de la protection de l'enfant et lutte contre les violences basées sur le genre ne dispose pas de moyens conséquents pour mener à mieux sa mission. Par contre, avec ses partenaires, elle sensibilise le professionnel de sexe, notamment sur la santé sexuelle et reproductive. Major Marceline Ndaya de la police de la protection de l'enfant et lutte contre les violences basées sur le genre répond aux questions de Gisèle Cage. On l'écoute.
Madame Marceline Ndaya, bonjour.
Bonjour.
La question est de savoir aujourd'hui, au niveau de la police de la protection de l'enfant, ils luttent contre les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la prostitution juvénile, notamment dans le quartier Paquet d'humains ici à Kinshasa?
Merci pour la question. Le problème de la prostitution juvénile, c'est un problème réel parce que c'est parmi les quelques infractions sur les violences sexuelles. Alors, comme vous avez ciblé Pakajuma, c'est une entité de la police et cette pratique est réelle. Qu'est-ce que nous faisons pour agir? Pour cette année 2024, jusque là, rien n'est fait. Mais dans les années passées, nous avons eu à sensibiliser et on avait organisé une campagne de 3 jours au niveau de Pakajuma où nous avons parlé en long et en large avec les mamans, les enfants. Et cette activité était annexée aux problèmes de santé sexuelle et reproductive. Ça avait quand même porté des fruits. Le problème, c'est que ce n'est pas facile d'éradiquer. Ce n'est pas facile d'éradiquer puisqu'il y a autant de, je dirais, de critères qui font que cela ne puisse pas être éradiqué. Entre autres, il y a le social. Entre autres, il y a la promiscuité et aussi, je dirais aussi, la culture. Puisque au niveau de Pakajuma, c'est plus les gens de la province de l'Équateur qui y habitent. Et pour eux, la prostitution, c'est quelque chose de normal. Alors, nous avons eu à sensibiliser, mais malgré cela, nous continuons à le faire, pas seulement nous de la police, mais nous travaillons avec les relais communautaires de la zone de santé de l'IMETE et nous sommes appuyés par Enabel, qui est un projet belge qui nous vient en aide afin que cette sensibilisation puisse aller jusqu'au bout, afin que nous puissions quand même récupérer nos enfants et qu'ils puissent laisser cette pratique-là. À part Enabel, il y a aussi une ONG, le nom m'échappe, mais qui est installée juste sur l'avenue Forgeron, toujours à Limité. Et là-bas, nous travaillons aussi avec cette ONG, mais là-bas, sa priorité, c'est l'encadrement des jeunes filles qui sont au niveau de Pakajuma. Et nous avons eu à les sensibiliser et à voir le travail que ces jeunes filles font après leur encadrement. Et au niveau de cette ONG, il y a au moins 3 disciplines pour lesquelles sont en train de sensibiliser et encadrer exclusivement les filles de Pakajuma. Ils les encadrent dans l'informatique, ils les encadrent dans la coupe et couture, ils les encadrent dans l'esthétique. Et après cette sensibilisation, nous avons eu à voir les fruits de ce que ces enfants ont produit et ils sont devenus des témoignages vivants pour voir d'où elles sont venues et ce qu'elles sont pour aujourd'hui. Et c'est en quelque sorte ce que nous faisons.
Est-ce que ceux-là qui utilisent des mineurs pour le sexe, vous avez eu des cas pour lesquels vous avez, par exemple, poursuivi et sanctionné?
Effectivement, puisque lorsque nous faisons la sensibilisation, ce que nous demandons à la population, c'est la dénonciation. S'il n'y a pas de dénonciation, nous ne sommes pas des magiciennes pour savoir que telle personne est victime de ceci ou de cela. Mais quand même, après la sensibilisation, nous avons eu à voir que ceux qui se sont donnés et qui ont pris cette décision-là ont quand même eu à dénoncer. Notre unité n'est pas seulement ici au camp Fungula. Nous avons des points focaux. Et si vous allez au niveau de Poids Lourd, juste en diagonale de Pakajuma, nous avons un point focal là-bas. Et deux fois, cette unité, notre point focal qui s'en charge en ce qui concerne tout ce qui est VBG au niveau de Pakajuma et les environs.
Y a-t-il des jeunes filles que vous avez par exemple récupérées qui ont complètement abandonné le commerce de sexe? Y en a? depuis la sensibilisation, depuis que vous êtes sur le terrain en train de sensibiliser les filles, est-ce qu'il y a, c'est vrai, vous avez parlé des formations, les filles qui ont été formées dans divers métiers, mais est-ce qu'il y a celles-là qui ont complètement abandonné et qui ne font qu'exercer leur métier aujourd'hui?
Si, c'est pourquoi je parlais de l'ONG qui est chapeautée par Madame Lagrasse au niveau des forgerons. Ces filles-là ont accepté et ont pris cette décision de tout abandonner. Et comme il y a eu une autonomisation, ils s'adonnent maintenant à ce qu'ils ont eu à avoir comme encadrement. Et ils sont devenus des pionniers dans leur quartier afin de demander à ce que les autres qui sont encore dans cette activité-là, qu'elles puissent les rejoindre afin d'éradiquer ou de diminuer tant soit peu cette pratique au niveau de Pakajuma.
Nous avons appris également qu'il y a des parents qui poussent leurs enfants à la prostitution. Et est-ce que vous arrivez aussi à sensibiliser les parents pour ne plus le faire? Ou qu'est-ce que vous faites contre ces parents-là qui poussent leurs enfants à la prostitution?
C'est ce que j'ai dit. Il y a un problème du social. Au niveau de Pakajuma, si vous y allez, vous verrez ce qui se passe. Les 3 jours que nous avions fait au niveau de Pakajuma, c'était pour sensibiliser. Effectivement, j'ai aussi parlé de la culture, mais les d'autres personnes sont là. Pour eux, c'est devenu un fonds de commerce, oui. Alors, lorsque les enfants vivent dans cette ambiance, ils sont en train de copier. Et aussi, il y a de ces parents-là qui sont en train de pousser ces enfants-là à faire cette pratique-là. C'est pourquoi j'ai parlé de la dénonciation. Une fille qui a bien capté le message et qui ne veut pas se retrouver dans ces pratiques et qui ne sont pas vraiment nobles, elle n'a qu'à dénoncer. Elle n'a qu'à dénoncer et nous saurons quoi faire pour lui venir en aide.
Oui, mais à part la sensibilisation, est-ce qu'il y a des actions que vous menez sur le terrain pour décourager cette pratique, la prostitution juvénile? Est-ce qu'il y a des actions pour décourager et les parents et les gens qui viennent prendre ces jeunes filles?
Les actions, ça demande des moyens. Et en tant que police, sans les partenaires, c'est difficile que nous puissions faire des grandes actions pour que nous puissions porter haut ce que nous sommes en train de faire. Mais une fois qu'il y a des partenaires qui peuvent nous venir en aide, nous sommes là pour le faire. Il n'y a pas de problème.
Alors, Madame Marceline Ndaya, je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement. Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation. Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup. Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission Bana Okapi. Le quartier Pakajuma à Kingabwa dans la commune de Limété, un bidonville de la banlieue, a une image ternie de la ville de Kinshasa, défiant le bonne mœurs. Pakajuma est surtout connu pour le commerce du sexe qui l'a rendu tristement célèbre, même auprès de grands artistes congolais. La prostitution, la plus grande spécialité de ce coin très renommé, commence dès l'adolescence et se fait à ciel ouvert. Pourtant, l'exploitation des enfants dans le contexte de la prostitution est une violation des droits des enfants et de leur dignité. Toutefois, certaines organisations locales s'emploient depuis quelques années à aider les femmes et enfants de Pakajuma pour leur réinsertion sociale. On en parle dans cette deuxième partie de cette émission.
Okapi, encore plus d'infos.
Commençons cette deuxième partie avec la fondation Pakajuma Résilience. Cette fondation a mis en place plusieurs programmes en faveur de la population de Pakajuma pour leur réinsertion effective. Ce programme porte ses fruits. Sur 6000 enfants de Pakajuma, au moins 660, soit 11% d'enfants, fréquentent à ces jours l'école grâce à l'ASBL Pakajuma Foundation. Madame Eliane Kiboubi, avocate et présidente de la fondation Pakajuma Résilience, s'entretient à ces sujets avec Gisèle Cash.
Madame Eliane Kiboubi, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes coordonnatrice de l'ASBL Pakajuma Resilience Foundation. Pouvez-vous nous parler de vos activités? Qu'est-ce que vous faites réellement en faveur de Pakajuma?
En faveur de nos sœurs, de nos frères, de nos enfants de Pakajuma, nous sommes dans la réinsertion sociale. Et nous avons comme devise, c'est aujourd'hui avec sourire que nous bâtissons la fondation de demain. Et d'aucuns ignorent qu'au Pakajuma, aujourd'hui, il est même chanté par plusieurs musiciens. Et je me souviens même, il y a Luambo qui a chanté Pakajuma. Et il y a plusieurs musiciens, comme je venais de le dire, Pakajuma est considéré comme un bastion de vol, de viol et de commerce de sexe. Surtout le commerce de sexe a un coût moindre. Et à Pakajuma, nous disons toujours que nous apportons de la résilience parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont de la résilience au-delà de la promiscuité qui se trouve à Pakajuma. Et nous avons mis en place plusieurs programmes pour permettre réellement que cette réinsertion soit effective. Entre autres, nous avons mis un programme sur l'alphabétisation fonctionnelle, l'apprentissage de la lecture et comment aussi compter l'argent parce que c'est très important. Bien que ces femmes, nous savons qu'il y a un taux élevé là du commerce du sexe, bien que ces femmes aussi sont, à la plupart, ce sont les femmes, les jeunes filles qui sont de victimes de cette de violence sexuelle et de violence basée sur le genre, parce qu'il y a vraiment, il y a un taux élevé. Nous avons voulu d'abord apprendre à ces femmes, à ces guerrières de l'ombre de l'humanité de Kinshasa, apprendre à lire et écrire, parce que c'est déjà le début d'une autonomisation. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'autonomisation sans que ces femmes puissent avoir quand même ces petites notions. Et depuis 2021, aujourd'hui, nous comptons plus de 135 femmes qui ont appris à lire et écrire. Et dans ces 135 femmes, il y a 77 ménages de ces commerçants de sexe qui ont abandonné. Et il y a 43 aujourd'hui qui sont dans les petites activités génératrices de revenus, vendre le pain, vendre le braise avec le chéri. Et là aussi, ils bénéficient de certaines d'autres formations, par exemple sur le jardin dans les sacs. Nous avons fait une collaboration avec Madame Karine Ndouzi qui a fait un partenariat avec Nzolatima, la fondation, je crois la fondation Nzolatima, comment faire le jardin dans le sac. Au-delà de ces programmes de jardin dans le sac, nous avons aussi le programme sur Bopeto et Abomoisi, tout le planning familial. Pourquoi? Parce que vous constaterez avec nous que les filles de 14 ans, là-bas à Pakajuma, sont déjà de mères. Il y a même des femmes aujourd'hui qui ont plus de 45 ans et continuent toujours à avoir des enfants. Donc, oui, et puis ils n'ont pas ces notions, ils n'ont pas d'informations sur le planning familial, d'où nous avons mis ces programmes aussi en place. Et pas plus tard qu'hier, nous avons aussi fait un partenariat avec l'ONG Espérien sur la planification toujours familiale pour nous appuyer sur le plan technique. Il y a aussi sur l'autonomisation, je peux dire, de la femme, nous avons un programme que nous avons appelé Mama Batela Mombongonayo. Donc, c'est 43 femmes qui ont bénéficié de ces petits fonds des commerces et avec l'appui aussi de Makuta No Level Up, la session qui vient de passer, et avec Madame Nicole Soulou, ça a permis à ce que ces femmes puissent continuer dans leurs activités, la vente, pas l'activité des commerces de sexe, mais de vendre, mais aussi de bénéficier de quelques formations, comment faire les épargnes. Nous l'avons même fait cette session à Soulutani dernièrement avec quelques bénéficiaires. Et enfin, nous avons aussi un système de bourse pour couper le cycle de dépendance au commerce de sexe. C'est-à-dire, c'est un cycle. Aujourd'hui, c'est Eyinga qui les fait. Après demain, c'est sa fille, par exemple Dorcas, qui le fera. Mais pour couper ces cycles, il faudra que Eyinga aujourd'hui soit un modèle pour son enfant. D'où Eyinga aujourd'hui, elle a appris à lire. Eyinga aujourd'hui, elle vend quand même ce pain. Eyinga aujourd'hui, elle a quand même son petit jardin dans les sacs. Du coup, elle pousse maintenant son enfant pour aller à l'école. C'est pourquoi nous avons mis en place aussi un système de bourse et qu'on a dénommé Pakachik, c'est-à-dire Pakajuma, Chiki École. Aujourd'hui, nous comptons plus de 50 enfants qui sont pris en charge. Et déjà, je vous dis, deux ans passés, il n'y avait que 1% d'enfants sur 6000 à Pakajuma qui partent à l'école. Grâce à notre travail, aujourd'hui, nous comptons au moins 11% d'enfants qui partent à l'école grâce à ces travaux de terrain que Pakajuma Resilience Foundation est en train de faire. Voilà un peu en gros ce que nous sommes en train de faire.
Ces enfants-là dont vous dites qu'ils ont repris les études, est-ce que ces enfants étaient déjà dans le commerce de sexe.
Certains oui. Certains oui, mais comme il y a aussi des mesures préventives, il y a d'autres non, parce que nous les avons déjà pu récupérer. Et il y a plusieurs cas que nous avons. Il y a certains qui avaient déjà commencé l'école, vu que les conditions sont difficiles pour étudier. Et je tiens même à signaler que là-bas, à Pakadjouma, il n'y a que les écoles privées, il n'y a pas des écoles publiques, parce qu'on peut dire qu'il y a la gratuité, il n'y a que les écoles privées, donc il n'y avait pas moyen d'étudier. Donc du coup, on récupère. Il y a certains qui ont abandonné, effectivement, certains enfants, mais il y a d'autres, nous avons seulement pris des mesures préventives pour qu'elles ne puissent pas tomber. Donc du coup, couper réellement ces cycles de dépendance au commerce du sexe.
Quels sont les défis auxquels vous faites face?
Les défis sont énormes. Premièrement, nos cibles, ce sont les enfants. Et pourquoi les enfants? Parce que ce sont les enfants qui sont plus exposés dans la violence basée sur le genre, que ce soit les filles ou les garçons. Mais dans la plupart, ce sont la violence sexuelle, ce sont aussi les filles. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas facile de commencer déjà avec un enfant X qui a 14 ans aujourd'hui, lui qui a commencé déjà avec le commerce du sexe à l'âge de 12 ans. Parler avec cet enfant, essayer de la récupérer, c'est sont vraiment des défis où il y a la résistance et il y a certains même qui nous disaient vous allez faire comme d'autres qui viennent juste prendre les images pour aller partager sur YouTube.
Ils nous ont dit la même chose.
Oui. voilà un peu et pour partager sur YouTube. Or nous, on s'est dit nous dans Pakadjouma il y a deux valeurs que nous devons mettre en exergue. Il y a des valeurs que nous devons, comment je peux dire, sauvegarder. Donc cette résistance était aussi, c'est parmi le défi, il y a les difficultés matérielles, les difficultés aussi financières, ce sont vraiment le grand défi auquel nous faisons face. Mais comme nous avons déjà, je peux dire, conquérir le terrain, récupérer vraiment le terrain avec l'estime de tout le monde, l'accompagnement même de la population, voire même des autorités au niveau local, et on essaye vraiment d'avancer. Mais là, nous avons vraiment beaucoup de difficultés sur le plan matériel et financier.
Mais vous visez combien de personnes à encadrer? Combien voulez-vous encadrer, que ce soit les femmes, bon, les adultes et notamment les enfants?
Pour les enfants, comme je le dis, dans moins de 2 ans, nous avons déjà au moins 11% sur 6 000. Ça fait à peu près 11%, c'est dans le 70 quelque chose, mais dans 2 ans, nous voulons avoir au moins 30% d'enfants. Donc, et cette nouvelle année qui va commencer, nous voulons au moins atteindre une centaine d'enfants pour aller à l'école et puis pour que ces derniers puissent aller à l'école et une prise en charge de façon directe. Et dans ces enfants, on a un système d'ambassadeurs. Aujourd'hui, nous avons au moins 10 ambassadeurs de ces enfants qui sont dans la plupart de filles.
Qui ont bénéficié de votre formation.
Oui, qui ont bénéficié de notre formation. Et surtout d'un encadrement, je peux dire, continuel. Ils sont 10 ambassadeurs. Ce sont eux aussi qui continuent à faire le relais, de faire maintenant aussi de sensibilisation à leurs enfants, à leurs amis, parce qu'il y a un langage aussi qu'eux-mêmes peuvent comprendre. Donc nous voulons avoir au moins 30 ambassadeurs pour cette année. Et dans 2 ans, nous voulons atteindre au moins 30% d'enfants à Pakadjouma qui doivent accéder à l'école de façon, je peux dire, d'une très bonne façon et aussi bénéficier vraiment d'une très bonne éducation. Mmh. Et quant aux femmes, aujourd'hui, nous avons 43 femmes qui bénéficient quand même de cet appui financier pour leurs activités, bien que nous avons déjà 77 ménages, mais nous voulons atteindre au moins une centaine de femmes, parce que ça va leur permettre aussi à être beaucoup plus autonomes et de s'occuper aussi de leurs enfants, de leur foyer.
L'ASBL Pakadjouma Foundation vise notamment à couper le cycle de commerce de sexe pour les femmes, les filles de Pakadjouma qui sont dans cette activité. À Pakadjouma, c'est aussi un nombre très élevé de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Madame Eliane Kiboubi, une fois de plus dans cet entretien avec Gisèle Cage.
L'objectif, c'est quoi? Vous voulez atteindre quoi exactement? Qu'est-ce que vous visez? C'est que ces femmes et les enfants arrêtent complètement le commerce de sexe et ça donne à d'autres activités génératrices de revenus.
Merci beaucoup, madame, pour vraiment cette question. Je tiens d'abord à préciser que dans Pakadjouma, il n'y a pas que le commerce de sexe qui est la seule activité génératrice. Il y a aussi bien d'autres activités, vous verrez, il y a des femmes qui vendent des liqueurs fortes, il y a d'autres qui vendent même de chikwang, il y a des jeunes garçons qui sont là. Il n'y a pas toute la population, soit toutes ces femmes qui habitent, qui sont dans les activités génératrices comme le sexe.
Mais c'est la majorité.
Ce n'est pas vraiment ça la majorité, mais il y a un nombre important. Et dans Pakachuma, il y a plusieurs couches. Vous le savez, il y a même certains étudiants qui habitent là-bas. Pourquoi ? Parce que le coût du loyer, il est moindre. Mais on pense que tout le monde qui habite là, soit toutes les femmes qui sont dans les activités, dans ces commerces de sexe. Non, ce n'est pas le cas, bien que le nombre soit aussi important. Notre objectif, c'est d'abord de faire comprendre à tout le monde que dans Pakachuma, il n'y a pas que le commerce de sexe comme le seul moyen de survie. Dans Pakachuma, il y a les écoles. Dans Pakachuma, il y a les avenirs à préserver. Et nous voulons couper ces cycles de commerce pour ceux-là qui sont dans le commerce de sexe. Couper ces cycles de commerce de sexe comme le seul moyen de survie. Dire à la femme, au-delà de ton sexe. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sexe. Demain, ça ne sera plus. Nous connaissons bien aussi le fonctionnement du corps de la femme. Demain, elle n'aura plus la force. Mais quand demain, tu n'auras pas la force encore de continuer avec le commerce de sexe, que ce que tu feras avec ton corps. Donc, du coup, tu resteras comme ça, alors que tu as encore la force, peut-être morale, mentale, de bien faire autre chose. L'enfant est en train de jouer avec le couteau. Mais pour retirer les couteaux, il faudra remettre quelque chose. Il faut le faire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le jour où l'enfant sera blessé. Donc c'est vraiment ça que nous faisons avec ces femmes de Pakachuma. Parce que demain on pourra aussi délocaliser ces gens-là. Mais là où ils seront, ils vont encore continuer avec le commerce de sexe. Non, il faudra commencer à travailler dès aujourd'hui avec ceux-là, leur faire voir qu'il y a de compétences en elles, il y a des opportunités qu'elles peuvent aussi créer, qu'ensemble nous pouvons le faire pour qu'ils puissent aussi continuer à mener à bien leur vie. Donc couper les cycles de dépendance de commerce de sexe. Dire à cette femme-là, ce n'est pas seulement le sexe, bien que tout le monde a des sentiments, mais ce n'est pas le sexe qui doit seulement nous produire le moyen. Et aussi, notre objectif, c'est de faire voir aussi à ces enfants, leur permettre aussi à dénoncer quelques cas de viol fait sur eux. Parce que, déjà, la loi le dit.
Il y en a.
Moi-même, déjà, je suis avocate. Il y a certains cas que nous accompagnons gratuitement, bien entendu. Il y a deux enfants aujourd'hui, déjà à moins de 18 ans, lorsqu'un enfant passe un acte sexuel. Il n'y a pas question de consentement. Tous ces cas, c'est déjà un viol. C'est ce que la loi portant protection de l'enfant le dit. C'est déjà le viol. Donc, il y a plusieurs cas. Parce que nous voyons un enfant déjà de 15 ans avoir un enfant. C'est déjà du viol.
On a vu quand même des enfants de 16 ans, 15 ans qui sont enceintes. Est-ce qu'elles arrivent à dénoncer leur bourreau, si je peux dire ça?
Oui, déjà avec cette confiance que nous avons battue, nous avons créée avec certaines familles, avec certains enfants, oui, ils dénoncent quand même, mais le coût, il est vraiment moindre si on essaie un peu de faire l'évaluation. Du coup, nous voulons vraiment que nous puissions plus que les enfants là puissent être à même de dénoncer pour nous permettre aussi à bien suivre cela. Et tout ça, je le dis, Pakachuma n'est pas... On peut dire qu'on n'est pas dans un endroit où il y a la guerre. Mais vous allez comprendre qu'il y a un taux élevé. Très bientôt, nous allons même publier un document là-dessus. Il y a un taux élevé de cas de violence basée sur le genre et de violence sexuelle. Et c'est même un message que j'aimerais même partager. Et aujourd'hui, nous sommes avec un nouveau gouvernement. Ça sera un moyen pour que nous puissions aussi réfléchir sur le fonds qu'on peut allouer, qu'on peut mettre en place pour le cas de violence basée sur le genre, le cas de viol, même si nous ne sommes pas pendant la période de guerre dans certains milieux, parce que Pakachuma est partout, si je peux le dire comme ça. La réalité à Pakachuma sont à peu près partout à Kinshasa et dans d'autres provinces aussi de la République démocratique du Congo. Voilà.
Mais qui sont les bourreaux? Ils sont identifiés par leurs victimes? Ce sont des clients qui viennent?
Il y a tout un système, madame. Je peux d'abord dire ceci. Il y a certaines qui font le commerce de sexe sans Pakachuma. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur, qui partent à l'extérieur de Pakachuma.
Okay.
D'où où il y a ces violeurs qui sont aussi dans Pakachuma, leurs frères, je peux dire comme ça. Il y a d'autres violeurs qui sont de l'extérieur. Pas plus tard que Quelques mois passés, j'avais reçu déjà une doléance d'une de bénéficiaires de la bourse, disant qu'il y a un monsieur, on s'est rencontré, tout ça vers, dans un coin donné de la ville, il m'a appelé chez lui, et du coup, quand je finis ma prestation, il ne m'a pas remis l'argent, il était sorti, il m'a dit qu'il allait revenir encore le soir. Et j'étais là seule dans sa maison, j'étais obligée de fuir, il a pris le téléphone de ce monsieur, et il est parti. Et après, la fille, quand elle est revenue, et le monsieur, après quelques jours, a fait de son mieux pour retrouver la fille. On a mis la main sur cet enfant. Et en allant au niveau de la police, non, cet enfant est un voleur, tout ça. Je dis voleur, pour quel fait? On a essayé de suivre le dossier, même au niveau du parquet. Enfin, il est mineur, monsieur, c'est vous qui avez commis cette infraction. Donc, il y a certains cas, il y a certains bourreaux qui sont aussi dénoncés. Il y a d'autres qui viennent juste... Je peux dire, comme l'exemple de cet enfant, il pose juste l'acte et il part. On n'a plus le moyen pour l'identifier, le reconnaître. Donc,
voilà. Les enfants qui sont aujourd'hui ambassadeurs, qui vont sensibiliser d'autres enfants, est-ce qu'ils sont écoutés facilement?
Bon, ils sont écoutés, oui, mais c'est un peu difficile. Parce que tout n'est pas rose, hein, c'est difficile. Il y a même certains cas où leurs amis disent... Vous avez quand même eu la chance. On dit, nous disons toujours que vous tous, vous avez la même chance. Bon, c'est un peu difficile, mais au moins avec leur langage, avec notre coaching là derrière, ils essayent au moins de comprendre pour certains. Il y a quand même cette, je peux dire, cet échange entre eux. Il y a quand même de discours favorables.
D'accord. Alors, Madame Eliane Kiboubi, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, Madame.
Depuis quelques années, plusieurs jeunes filles de Pakajuma ont accepté d'abandonner les commerces de sexe. Au moins 500 d'entre elles ont bénéficié de formations en métier. C'est ce que déclare Madame Pascaline Zamouda, coordonnatrice nationale du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes. CREEJ, elle est au micro de Gisèle Cage. On l'écoute.
Madame Pascaline Zamouda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice nationale du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes. Et vous avez beaucoup plus d'activités à Pakajuma notamment, en faveur de la population de Pakajuma. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites exactement?
Merci beaucoup pour la question. Le choix de Pakajuma n'est pas en fait un fait de hasard. C'est à cause de la vulnérabilité de la population de cette contrée en général, mais de la jeune fille et de la femme en particulier qui nous a attirés, étant donné que nous travaillons essentiellement dans le renforcement de l'accès aux ressources, notamment à l'information, à la formation, mais aussi à l'autonomisation. Alors, nous avons choisi Pakajuma parce que nous avons compris que la fille ou la femme de Pakajuma vivait dans une vulnérabilité accentuée et qui avait des causes plutôt socioculturelles et structurelles. Et nous avons pensé que c'était possible malgré tous les stéréotypes et les préjugés qui sont attachés et à la stigmatisation d'ailleurs à la fille de Pakajuma. Et c'est ça qui a justifié non seulement les activités que nous menons là-bas, mais l'implantation même d'un centre d'autonomisation au sein de Pakajuma depuis 2017, où nous offrons les activités d'alphabétisation, parce qu'on note un taux très élevé dans l'alphabétisme ou d'abandon scolaire de la jeune fille, mais aussi l'apprentissage au métier pour leur autonomisation économique.
Mais s'il faut faire le bilan depuis 2017, qu'est-ce que nous pouvons retenir depuis 2017, depuis que vous encadrez ces jeunes filles à Pakajuma, notamment dans le cadre de l'alphabétisation?
Oui, le bilan est à la fois qualitatif et quantitatif. Qualitatif dans le sens que nous avons vu l'amélioration des vies de ces jeunes filles. Pour la plupart, elles ont accepté ou elles ont décidé d'abandonner la prostitution parce que c'était le seul moyen de subsistance par lequel lesquelles elles vivaient pour subvenir à leurs besoins, mais aussi aux besoins de leurs dépendants. Et aussi, elles ont compris qu'elles avaient des droits, que c'était des sujets à droit, et elles ont compris que c'était des actrices à part entière de leur société, parce que notre formation ne se limite pas seulement à leur apprendre à lire et à écrire, mais aussi nous faisons de la citoyenneté, de la conscientisation, mais aussi du leadership. Ça veut dire que nous les amenons à être transformés non seulement à des personnes normales, mais aussi à des personnes capables de résoudre les problèmes de leur société. Alors pour la plupart, elles sont capables maintenant de dénoncer le problème de leur société. Pour la plupart, elles ont réalisé qu'elles étaient victimes plutôt des abus qu'elles vivaient, qu'elles étaient arrivées déjà à normaliser au niveau de leur communauté parce qu'elles ont grandi et n'ont pas pu différencier c'est quoi un viol, c'est quoi un harcèlement sexuel, c'est quoi une exploitation sexuelle. Pour moi, déjà, ça, c'est un grand pas parce qu'elles sont maintenant capables de décider sur leur devenir. Et sur le plan économique, les formations en métier qui bénéficient notamment en coupe et couture, en esthétique, en coiffure, en informatique, ça leur permet effectivement de commencer déjà à entreprendre quelques activités et à gagner quelques revenus proprement qui leur permet de vivre leur vie dignement. Cela ne veut pas dire que les défis ne sont pas là, mais nous avons vu que c'est cette formation, cette stratégie de mettre au sein même de Pakajuma, ces centres d'encadrement des jeunes filles, que ce n'était pas une mauvaise chose, mais plutôt une solution qui pouvait sauver des vies.
Et combien de filles et adolescentes avez-vous récupérées depuis ce temps-là, qui ont abandonné donc le commerce de sexe et qui sont encadrées, qui sont sorties quand même de cette vie-là?
Nous avons en moyenne une centaine de filles par session. Alors s'il faut compter pour chaque année, donc depuis 2017, et ça va en s'accroissant parce que c'est ce que j'étais en train de dire, que c'est depuis 2022, notre centre est reconnu officiellement comme un centre de formation socio-professionnelle par le ministère des formations professionnelles. Ça veut dire nous réalisons, nous organisons avec les apprenants des épreuves nationales des formations professionnelles. Ça veut dire ça donne encore une autre valeur ajoutée à ces filles ou à ces apprenantes qui viennent de tous les quartiers maintenant pour venir apprendre au sein du centre. Donc je peux dire en moyenne on a atteint plus de 500 parce que c'est chaque session que nous organisons comme ça, même si nous notons qu'il y a parfois un taux de désengagement parce que pendant qu'elles suivent la formation, comme elles ne survivaient qu'à la prostitution, parfois elles n'arrivent pas à tenir jusqu'au bout et subissent aussi la pression parfois de leur famille parce que comme vous le savez, la particularité avec la prostitution avec les filles de Pakajuma, c'est que toutes les familles, elles sont victimes en fait de l'exploitation même de membres de leur propre famille.
Mais qu'est-ce que vous faites en faveur de ce membre de famille? Vous sensibilisez uniquement les filles sans leurs parents aussi qui les envoient à la prostitution? Vous vous limitez juste à ce niveau-là? Ouais.
Non, pas seulement à ces niveaux. Nous formons ces filles aussi comme des pères éducatrices. D'ailleurs, c'est elles qui vous retournent dans leur communauté de base pour former par rapport aux abus, par rapport aux violences domestiques, par rapport aux violences conjugales, aux violences sexuelles et montrer. Parce que la prostitution, pour moi, n'est qu'une conséquence. Les causes situent dans la survie, les niveaux de vie, la promiscuité et tout ce que nous déplorons en fait comme problème d'encadrement et d'accompagnement au niveau de la famille, des tissus socio-économiques tels qu'il est présenté actuellement et cette pauvreté endémique. Alors, les enfants retournent au sein de leur société transformés déjà parce qu'aujourd'hui, il est très net et clair que quand vous arrivez au centre, vous pouvez voir la différence, même au niveau du comportement. Et elles-mêmes, elles ont eu à le dire dernièrement quand nous avons fait la clôture de la formation avec la participation des ministres sortants de la formation professionnelle. Ils ont dit que même au niveau de l'habillement, dans la communauté, vous serez différencié, celles qui sont passées par les centres et celles qui sont encore au niveau de la société. Donc, ce sont ces mêmes filles qui retournent maintenant sensibiliser et dénoncer, comme j'ai eu à le dire ici. C'est qui dénoncent maintenant des cas de violence parce qu'il y a même des abus sur des enfants, des abus sexuels sur des enfants. Et c'est elles, comme elles connaissent déjà c'est quoi le viol, par exemple, et elles ont déjà cette capacité à dénoncer. Et elles font un grand travail par rapport à l'engagement communautaire au niveau de leur quartier et à la sensibilisation. Mais les vrais défis, c'est la pauvreté parce qu'il y en a qui ne résistent pas. Il y en a même dont on encadre et qui retournent encore dans la prostitution et qui viennent nous dire que non, il n'a pas tenu parce qu'il devait nourrir des enfants, il devait faire ceci. Mais bon, nous, on continue avec notre encadrement parce que nous savons que nous voulons gagner plutôt sur le long terme.
Mais est-ce que vous avez un volet juridique parce que quand même il y a beaucoup de cas de adolescentes qui sont exploitées là-bas sexuellement. Est-ce que vous avez un volet juridique pour accompagner par exemple ces adolescentes qui sont victimes de viols et de violences basées sur le genre?
Par rapport à notre volet formation thématique, on ne peut pas évoquer les violences sexuelles sans pour autant parler de l'accompagnement judiciaire. Et nous avons fait des collaborations avec les barreaux ici à Kinshasa pour venir les aider ou d'autres associations juridiques. Et on a lancé même une antenne chez nous là-bas où on invitait toute la population à venir dénoncer les violences conjugales. Mais il faut savoir que c'est difficile pour certaines de dénoncer parce qu'il faut un vrai accompagnement. Mais c'est quelque chose qu'il faut envisager, pas seulement au niveau du centre par rapport au cas que nous enregistrons, mais il faut qu'il y ait tout un schéma bien défini où on doit orienter, on sait où on doit orienter les victimes et comment elles doivent être prises en charge. Et on a même plaidé la dernière fois en lançant notre antenne des prises en charge des violences conjugales et des violences domestiques. On a collaboré avec la police de la protection de l'enfant et des luttes contre les violences sexuelles où on a essayé d'établir. Là où le bas blesse, ça veut dire qu'il y a toujours des frais qui sont demandés aux victimes et parfois cela doit incomber à nous, le centre, et si nous sommes limités et cela va avoir de l'impact aussi sur cette prise en charge-là. Mais c'est une dimension tout aussi prioritaire, capitale, comme aussi la prise en charge psychosociale d'ailleurs.
Pour terminer avec vous, Madame Pascaline Zamouda, quels sont les grands défis que vous rencontrez dans l'encadrement de ce jeune fille de Pacajuma?
Oui, les défis logistiques, ça veut dire c'est les ressources qui sont limitées parce que parfois on peut enregistrer un nombre très élevé de filles, mais elles sont démunies à la base, elles sont même pas capables de s'acheter un stylo. Il n'y a pas aussi de l'intérêt parce que quelqu'un qui vient, c'est nous qui les incitons à vouloir quitter cette vie, donc elles ne peuvent pas venir et vous leur demander amène ton stylo, amène ton cahier pour nous, ça sera comme un moyen de les repousser. C'est comme ça que nous essayons de tout prendre en charge nous-mêmes, nous allons même apprendre en charge leur alimentation et surtout l'alimentation de leurs enfants qui sont malnutris pour la plupart. Et donc cela pèse énormément sur le centre étant donné que vous savez qu'il n'y a pas toujours de partenaires qui sont disposés à prendre en charge le tout globalement. Les partenaires peuvent prendre en charge un aspect par exemple de la formation, un aspect pour vous accompagner en vous achetant quelques matériels, mais ils ne peuvent pas couvrir cela. Mais comme c'est notre vision, c'est notre mission, nous accrochons. Mais ça reste quand même un défi parce que parfois on peut même connaître des ruptures de matériel. Mais aussi quand on n'est pas capable de donner l'alimentation, la nourriture, on enregistre un taux élevé d'abandon ou bien des intérêts. Un autre défi, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'adresse fixe. Comme fille prostituée, la plupart viennent aussi parfois des provinces et quand elles viennent ici, elles viennent pour être exploitées. Quand elles ne veulent plus ou qu'elles n'arrivent plus à mobiliser assez de ressources à travers les travaux qu'elles font, elles sont obligées d'échanger parce qu'elles doivent payer les loyers. Et sont obligés d'aller peut-être là où ils pensent qu'il y a le marché est beaucoup plus intéressant. Donc, on a parfois du mal à les maîtriser, à le maintenir à un seul endroit. Et on perd parfois des filles qui étaient déjà bien assidues au niveau de la formation. Mais l'autre défi, c'est les maladies. Et ils font face à beaucoup d'infections parce que là où elles vivent, il y a une grande promiscuité et d'insalubrité parce que normalement, c'est des endroits où on ne peut pas habiter, en fait. Et souvent, ils ont beaucoup de problèmes de santé auxquels nous sommes obligés de faire face. Et parfois, on n'arrive pas. Et parfois, nous déplorons même des cas de morts et de décès et maternels et infantiles. Et c'est en général ça, les défis auxquels nous faisons face. Mais ce qui nous rassure, ce qui nous donne encore le courage d'avancer, c'est le fait que pour celles qui se maintiennent jusqu'au bout, on voit effectivement qu'elles arrivent à se transformer. Et c'est ça notre objectif, c'est leur accorder une seconde chance pour gagner, refaire leur vie.
Madame Pascaline Zamouda, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, Madame Gisèle. Merci beaucoup.
Vous venez de suivre Madame Pascaline Zamouda, coordinatrice nationale du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, qui répondait aux questions de Gisèle Cage. Nous poursuivons notre émission Bana Okapi du jour qui parle de la prostitution enfantine à ciel ouvert au cœur de la capitale dans le quartier Pacajuma. Nous avons approché un avocat pour savoir quelles étaient les sanctions réservées aux personnes qui poussent les mineurs à la prostitution. Maître Gilbert Kalinda répond à cette question et à d'autres au micro de Stanislas Diomi.
Maître Gilbert Kalinda, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de la prostitution chez les jeunes filles adolescentes. Quelles sont les sanctions réservées aux personnes qui poussent les mineurs à la prostitution?
Oui, effectivement, c'est assez intéressant les thèmes que vous examinez. Il faut noter qu'il y a une entreprise criminelle qui tourne autour des mineurs. D'une part, il y a certaines personnes qui, effectivement, poussent les mineurs vers cette exploitation sexuelle, soit en créant des cadres, des petites maisons, des réunions, beaucoup de termes qu'on peut utiliser dans les milieux urbains, tout comme dans les milieux des villages. Et ces personnes-là sont punies par notre code pénal. Et la sanction va pratiquement de 5 à 20 ans de prison, à la condition, bien entendu, que l'organe de la loi soit informé ou qu'il y ait des dénonciations qui permettent que l'organe de la loi puisse poursuivre. Parce que l'action pénale ne s'active pas seulement par notre mécontentement ou par le mécontentement de la société. Il faut que l'infraction soit portée à la connaissance de l'organe de la loi, et c'est là peut-être la nécessité ou l'utilité de votre thème, parce que je suis en train de suivre depuis 3 jours, vous parlez un peu des questions Pakadjuma. C'est quelque chose qu'il faut effectivement qu'on poursuive. Il y a des encadreurs pour un commerce sexuel, et ce commerce sexuel l'est aggravé sur les personnes des mineurs. Ça, c'est vraiment réprimé de 5 à 20 ans de prison par notre code. Mais il y a également ceux qui font eux-mêmes, disons, le commerce charnel avec ces mineurs. Ça veut dire des personnes qui ont des relations sexuelles avec des filles qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Et pour ces personnes-là, comme le disent certains auteurs, la présomption du viol est irréfragable compte tenu de l'âge de leur victime. Parce que quand on est mineur, le droit ne reconnaît pas à une personne mineure la capacité de transiger, la capacité d'accepter, la capacité de donner son accord. Alors, même si vous pouvez prendre une petite fille de 15 ans, 16 ans, vous l'amenez calmement, vous allez avec elle, elle est vraiment d'accord avec vous. Vous n'allez pas dire que non, elle est venue, elle était d'accord, d'ailleurs, voilà ce qu'elle m'a écrit, voilà les messages. Non, il y a une présomption irréfragable que vous avez, dans ces cas, commis un viol. Vous ne pouvez jamais indiquer que cette petite fille a la possibilité de donner son consentement. Voilà pourquoi les personnes qui entrent dans cette structure-là sont également punies de 5 à 20 ans de prison également. Et la loi est quand même rigoureuse par rapport à ces contextes-là.
Et en tant que spécialiste, quels conseils pouvez-vous donner et aux personnes qui poussent les mineurs à la prostitution et ceux qui passent à l'acte avec les mineurs?
La première chose utile d'abord, c'est une éducation de la société. Il faut éduquer la société, et je pense que l'émission que vous avez lancée fait déjà un boom. Il faut qu'on passe à des séances d'explication de la société, d'éducation. Parce que vous savez, ça va peut-être choquer un peu, mais l'infraction de viol se range dans la catégorie vis-à-vis de son auteur comme une infraction douce. Parce qu'en fait, il est heureux d'avoir atteint son objectif d'avoir une relation sexuelle avec la personne qu'il envie. Cet auteur-là est presque content d'avoir commis son forfait. Mais derrière cet acte ou derrière sa joie, il y a une victime qui est une petite fille. Il faut noter évidemment que le viol n'est pas seulement que... On peut également se poser la question s'agissant des grandes dames qui prennent des petits enfants. Donc on doit éduquer notre société à respecter la dignité de l'enfant. Parce que c'est cet enfant digne qui fera la société de demain. Si déjà aujourd'hui, nous détruisons le corps de cet enfant, nous détruisons au même moment sa moralité, nous détruisons son intelligence. Et dès que nous avons détruit, nous sommes des meurtriers. Et je crois que ça peut passer pour que les gens arrêtent. Même si, par ailleurs, il y a aussi une responsabilité de l'État. Quand vous suivez les déclarations de certaines filles qui sont sous le couvert de ces entreprises criminelles, elles vous disent qu'on l'a chassée de chez elle, elle n'a pas à manger, donc il y a une crise sociale qui amène aussi la recrudescence de ces actes de commerce charnel. Donc nous devons aussi, comme État, faire un effort d'encadrer convenablement les parents par des salaires décents, par exemple. Mais aussi, dans l'éducation à l'école, que les enseignants puissent être le modèle, puissent expliquer aux filles comme aux garçons qu'ils doivent, jusqu'à un certain âge, garder leur dignité parce que les lois de la République ne leur reconnaissent pas la capacité d'accepter cet acte-là.
La responsabilité est tellement partagée à ce niveau. Il y a l'État qui doit intervenir, il y a les écoles. Faudra-t-il proposer un programme approprié pour faire une forme de sensibilisation dans les écoles, mais aussi dans des familles, parce que la famille, c'est la cellule même de base.
En fait, tout a le point de départ dans la famille. Et quand je dis l'État a une responsabilité, parce que l'État a un tout petit peu renoncé à certaines de ses exigences ou de ses obligations,
oui.
En sorte que les familles sont laissées pour compte, les programmes de télévision sont à la portée de tout le monde, sans beaucoup de contrôles. Les musiques que l'on chante sont pratiquement des musiques qui incitent aussi à ces contextes de commerce sexuel. Donc on doit veiller sur tout ça. Nos députés doivent, à la suite, il est vrai que le code pénal est vraiment enrichi, mais il faut que nos députés pensent davantage à réglementer quelque chose sur les exigences de stabilité de foyer. Parce que aussi, il faut quand même que le foyer reste stable. Parce que trop souvent, vous rencontrerez des filles qui sont exploitées. Papa est déjà à Boakana et nous autres aussi, quelque part dans les mines à Kasumbalesa, ou je ne sais pas, en Angola, ou dans les Bouéga, ou dans les Walikale, dans les Bushi. Et la maman reste seule à la maison, ne sait plus rien faire avec les enfants. Un parent comme celui-là, il a abandonné son foyer. C'est une infraction. Mais on le laisse partir et on laisse une maman rester seule en train de se débrouiller. Mais si déjà on commence à réprimer ceux qui abandonnent leur foyer de cette manière-là,
oui.
Les foyers vont un tout petit peu rester stables et on peut sauver quelques pourcentages de quelques victimes. Ça, c'est un aspect. Les églises devaient aussi, le plus possible, parce que les prêtres, les pasteurs, ils parlent pratiquement à la plupart des populations, plus que même les politiciens.
Oui.
Ça veut dire, si les églises peuvent, elles aussi, se donner l'objectif d'être des modèles, de savoir qu'il y a des comportements qui sont réprimés par les lois, de ne pas seulement laisser attendre que le ministère public réprime, mais de faire des préventions pour éviter qu'on ne tombe à l'infraction, surtout que c'est une infraction qui a comme conséquence de détruire un enfant. Alors, les églises peuvent aussi, dans leurs différentes prêches, essayer d'en parler.
Oui, oui. Les églises, ça donne beaucoup plus à des messages de motivation, à des collectes de fonds, alors qu'il y a beaucoup de choses,
oui,
à dire sur l'avenir
des enfants.
Il y a beaucoup
de choses. Donc, les églises n'en parlent pas. Et quand les églises n'en parlent pas, nous tous, nous allons à l'église pour apprendre Dieu, pour apprendre la morale, pour apprendre le respect de la vie, pour apprendre le respect de l'être humain. Et vous, les médias, vous avez une grande charge. Parce que nous vous écoutons aussi plus que les églises.
Merci, Maître Gilbert Kalinda.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
Ainsi prend fin cette émission Bana Okapi de ce jour. La prostitution est au cœur de Kinshasa depuis des décennies. Pakadjuma reste le centre névralgique du commerce de sexe, notamment par les adolescentes au vu et au su de la population et des autorités. Pourtant, l'exploitation des enfants dans le contexte de la prostitution est une violation des droits des enfants et de leur dignité. Néanmoins, depuis quelques années, certaines organisations s'impliquent en vue de couper les cycles de commerce de sexe pour les femmes, les filles et les adolescentes à travers notamment deux activités génératrices de revenus et la prise en charge scolaire. Maître Gilbert Kalinda, Madame Pascaline Zamouda, coordinatrice nationale du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, Madame Eliane Kiboubi, avocate et présidente de la fondation Pakadjuma Résilience, ainsi que le major Marceline Ndaya, de la police de la protection de l'enfant et lutte contre les violences basées sur le genre étaient nos invités. Gisèle Cage et nos stagiaires John Tinsoupa, Miradi Fuengi ont coproduit cette émission. Une réalisation de Stanislas Diomi, la supervision de Jean-Marc Matweki, mise en onde de Dieudonné Nyangasawa Nyangasa, avec une présentation de Sarah Sumbela. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiocapi.net et sur la page Facebook Banao Capi. C'est un plaisir de vous retrouver très prochainement sur la même fréquence. En attendant, portez-vous bien.
Parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français, parlons-en.
Le français, parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français, parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler correctement le français.
Parlons.
Thank you.